Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une le soulagement pour certains, l'inquiétude pour d'autres. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Vos réactions à la sortie d'un TGV ce matin, dès le début du journal. On manque de serveurs en France pour cet été. Entre 220 000 et 250 000 postes sont à pourvoir dans toute la France, dans l'hôtellerie-restauration. Et on négocie pour faire venir des serveurs tunisiens pour sauver la saison estivale. Nos informations avec Élise Dangean. Le maire de Grenoble veut autoriser le burkini dans ses piscines municipales. Le vote a lieu en conseil municipal à 15h cet après-midi. On ira sur place. Un pic de chaleur sur la France cette semaine. Certains parlent d'un dôme de chaleur. Que va-t-il se passer? Jusqu'où le thermomètre va-t-il monter? Les réponses d'un météorologue dans un instant. Et on accueille aujourd'hui Prisca Thévenot. Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour.
Porte-parole de La République En Marche, candidate Renaissance aux législatives sur la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, et on accueille également Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin Cauchy.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes porte-parole du parti Reconquête, candidat Reconquête aux législatives sur la première circonscription de l'Aisne. Bonjour à tous les deux et donc, et à tout de suite.
Europe 1.
C'est donc la dernière mesure sanitaire majeure qui vient d'être levée. Le port du masque dans les transports collectifs n'est plus obligatoire depuis ce matin. Mais si vous avez pris le train, le bus, le métro, le tramway, aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté, certains ont toujours la bouche couverte par précaution. Johan Tritz, avec nous depuis la gare Montparnasse à Paris. Bonjour Johan.
Bonjour.
Les voyageurs prudents sont-ils nombreux? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens masqués autour de vous?
Alors, pas vraiment. Ils sont même plutôt rares en gare Montparnasse autour de moi. Souvent, ce sont des personnes âgées pour des raisons de santé, mais parfois aussi par réflexe. C'est le cas de Laurent qui a voyagé ce matin.
C'est une habitude qu'on a pris, et puis là, j'avoue, c'est tout récent. Donc c'est juste pour la protection de moi-même et des autres, pourquoi pas.
D'autres ont décidé de faire tomber le masque lorsque les trains arrivent à quai ici. La grande majorité des usagers qui en sortent n'en portent plus. Mathias a fait 2 heures de voyage entre Bordeaux et Paris. Il a apprécié ce retour à la normale après 2 ans de restrictions.
C'est la première fois que j'ai pas porté de max dans le train et c'était vraiment... ça faisait plaisir de déjà revoir la tête des gens. Ce qui est plutôt pas mal, c'est créer une meilleure ambiance et surtout de pouvoir respirer, surtout dans le train. À Bordeaux il faisait beau, alors bon à Paris il pleut, mais à Bordeaux il faisait beau, il faisait chaud, il faisait étouffant. Donc ça fait plaisir de pouvoir revoyager sans porter le masque.
Et même si le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports, il est encore recommandé. Des messages pour informer les passagers sont d'ailleurs diffusés dans les trains.
Merci beaucoup Johan Tritz, en direct de la gare Montparnasse pour Europe 1. Et notez que le masque reste tout de même obligatoire dans les établissements de santé, notamment les pharmacies. Hein. On en parle depuis plusieurs mois, le secteur de l'hôtellerie-restauration manque sérieusement de bras. Entre 220 et 250 000 postes seraient vacants. Et plus la saison estivale approche, plus l'inquiétude monte chez les professionnels. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Pour tenter de résoudre le problème, l'UMI, le principal syndicat du secteur, tente d'attirer des saisonniers étrangers et principalement des Tunisiens.
Absolument, et pour ce faire, l'UMI travaille depuis plusieurs semaines avec le ministère de l'Intérieur à un protocole qui doit être signé début juin avec le gouvernement tunisien, car tout ça va être très encadré, notamment le type de contrat. Ce seront principalement des CDD à la demande de la Tunisie, qui veut sûrement récupérer sa main-d'œuvre à terme. Les restaurateurs français étaient pourtant prêts à offrir des CDI, mais cela viendra peut-être dans un second temps. Cet été, les établissements qui accueilleront des Tunisiens devront par ailleurs leur fournir un logement, condition sine qua non, et un logement décent, ça fait partie du protocole. Et pour le salaire, les Tunisiens seront payés comme les salariés français, sur la base de la même convention collective. Un tel partenariat pourrait aussi être mis en place avec le Maroc, qui a l'avantage, comme la Tunisie, d'avoir une main-d'œuvre qui parle français, deux pays qui disposent chacun d'un vivier de 4000 professionnels de la restauration.
Élise Dangean, merci Élise. Ses cartons sont prêts, sa lettre de démission également. Le Premier ministre Jean Castex va quitter Matignon dans les prochaines heures. Tout porte à croire que son successeur sera une femme. Plusieurs noms circulent. Marisol Touraine, Elisabeth Borne, Audrey Azoulay, mais à midi, Jacques Serret. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Il semblerait qu'une favorite se détache, l'ancienne ministre de Jacques Chirac, Catherine Vautrin.
Oui, c'est le nom qui revient le plus ces dernières heures, même si cela ne veut pas dire que ce sera elle. Catherine Vautrin, 61 ans, a un profil qui pourrait cocher un certain nombre de cases pour Emmanuel Macron, issue des Républicains, actuellement présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, une élue locale de droite, peu connue, qui a une longue expérience, 3 mandats de député de la Marne, secrétaire d'État puis ministre sous Jacques Chirac, intégration, égalité des chances, personnes âgées, cohésion sociale et parité. C'est elle qui, en 2007, lance le 3919, le numéro d'appel unique pour les femmes victimes de violences conjugales, un CV empreint de la question sociale. Une des exigences fixées par le président pour aborder ce second quinquennat. Mais un point fait tiquer certains dans l'entourage d'Emmanuel Macron. En 2013, Catherine Vautrin s'est positionnée contre le mariage pour tous et a participé à la manif pour tous.
Alors Jacques, cela fait 3 semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu, plus d'une semaine qu'il est officiellement investi pour un second mandat et on est toujours dans l'attente du nom du Premier ministre. Alors pourquoi le président fait-il durer ce suspense ?
Parce qu'il aime ça. Emmanuel Macron adore être vu comme le maître des horloges. En faisant durer l'attente, il montre qu'il ne se soumet pas à la pression médiatique. Il joue en quelque sorte avec les nerfs des journalistes, mais aussi de ses propres ministres. Eux aussi attendent impatiemment la fin. Dans les ministères, les cartons sont faits et les membres du gouvernement déjà sur le départ, à l'image du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, dont on apprend ce matin qu'il s'apprête à entrer au conseil d'administration d'une start-up française, Opium, qui construit des véhicules à hydrogène. Situation très particulière car Jean-Baptiste Djebbari est toujours ministre. Mais si le suspense devait encore durer, une question risque très vite de se poser. Emmanuel Macron a-t-il vraiment trouvé celui ou celle qui succédera à Jean Castex ?
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Voilà, on va attendre. C'est sûr, c'est dans les heures qui viennent ?
On est sûr de rien.
On est sûr de rien. Merci beaucoup Jacques. Cet après-midi, les conseillers municipaux grenoblois vont s'exprimer sur un sujet qui enflamme les débats, le port du burkini dans les piscines de la ville. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, y est favorable au burkini. Le préfet de l'Isère, en revanche, a déjà prévenu qu'il saisirait le tribunal administratif si l'habit islamique était autorisé. Jean-Luc Boujon, vous êtes à Grenoble pour Europe 1. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Au-delà du débat politique autour du burkini, qu'en pensent les habitants de la ville ?
Eh ben, il faut reconnaître que c'est assez partagé. Hein. Certains sont opposés au burkini par principe, d'autres l'acceptent au nom de la liberté de choix de chacun. Écoutez ces quelques avis recueillis ce matin.
Même si elles disent qu'elles le mettent volontairement, je pense que c'est quand même quelque chose qui dégrade la femme.
Moi, je suis contre parce que je trouve pas que ce soit très hygiénique déjà. Et puis, c'est une façon de se démarquer encore par rapport aux autres.
Je trouve que chacun fait comme il veut. Et à partir du moment où ça ne m'empiète pas sur ma vie, et sur ce que je fais, elles sont libres de se mettre le maillot de bain qu'elles veulent.
Alors, il est intéressant aussi de poser la question à celles qui sont directement concernées, à savoir les femmes musulmanes. Et là aussi, on trouve les deux tendances.
On est en France et la liberté quoi. Et le burkini, c'est important dans notre religion. J'ai entendu parler comme quoi c'est l'homme qui lui impose ça alors que pas du tout. Ça sera mon choix à moi et non pas le choix à une autre personne.
Moi le burkini je suis contre. En fait ça fait des histoires pour rien. Je trouve que ça va pas dans notre sens. Moi personnellement je fais un maillot de bain, on a l'habitude. S'ils ont décidé de mettre le foulard, ils ont rien à faire dans les piscines municipales.
Alors sur le plan politique, Éric Piolle peut compter sur certains soutiens, mais pas tout le monde dans sa majorité, qui est fracturé à l'image de Pascal Clouer, conseiller municipal écologiste, qui désapprouve cette délibération.
Moi j'en suis désolé, je me sens pas engagé sur cette question-là, puisque en fait ce n'est pas un de nos engagements qui nous a vu élire aux élections en 2020. Donc il me semble inutile de mettre dans l'agenda des sujets qui clivent et qui divisent.
Il faut donc s'attendre à un vote très serré cet après-midi. Il pourrait se jouer à une voix près, à un vote tendu aussi, puisqu'une manifestation d'opposants aura lieu juste devant le bâtiment où aura lieu le conseil municipal.
Jean-Luc Boujon, merci beaucoup Jean-Luc. Et ce matin sur Europe 1, le député européen Les Républicains François-Xavier Bellamy s'est dit farouchement opposé à l'autorisation du burkini. Il estime, je cite, qu'on n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment en démocratie. Il est midi 9, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va aller en Finlande, la Finlande qui veut rentrer dans l'OTAN. A tout de suite.
Europe midi, Romain Desarbres.
Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN constituent une grave erreur. C'est ce qu'a dit ce matin le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Il a prévenu que le niveau de tension militaire allait augmenter. Alors que depuis un peu plus de 2 heures, les Finlandais examinent au Parlement la demande de candidature formulée par l'exécutif hier. Caroline Baudry, vous êtes en direct avec nous, envoyée spéciale d'Europe 1 en Finlande. Vous êtes en direct d'Helsinki. Bonjour Caroline.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Là-bas, vous nous dites que les menaces russes n'effraient pas la population?
Oui, car ces menaces sont régulières. Depuis qu'on exprime ici la volonté de rejoindre l'alliance militaire, elle n'étonne même plus Doula, qui vit dans la capitale. Les Russes n'empêcheront pas les 200 députés de faire le bon choix aujourd'hui, selon elle, dans l'immense bâtiment qui abrite le Parlement.
C'était tellement attendu que les Russes disent cela, qu'ils essaient de nous dire que ce n'est pas acceptable pour eux. Mais c'est à nous, les Finlandais, de dire et de faire les choses à ce sujet.
En Finlande, on se prépare à des cyberattaques. Les autorités excluent pour l'instant un conflit armé. Je ne suis pas inquiet, lance Oskari, un citoyen monté dans un tramway.
Évidemment, les tensions vont augmenter. Mais quand je pense à une présence militaire, je pense que ce ne sont que des mots. Ce serait stupide de la part de la Russie de faire une autre guerre en Finlande, alors qu'ils sont engagés dans une guerre en Ukraine. Ça n'a pas de sens.
Comme tous les hommes ici, Oskari a fait son service militaire obligatoire. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, les centres d'entraînement à la défense nationale accueillent de plus en plus de femmes volontaires.
Caroline Baudry, merci Caroline. En direct de Finlande, en direct d'Helsinki, face à l'invasion russe en Ukraine, les Occidentaux ont répliqué par des sanctions économiques. Plusieurs entreprises étrangères ont quitté le pays, ont quitté la Russie. Le constructeur Renault n'avait pour l'heure que suspendu ses activités. Mais ce matin, Carole Ferry, bonjour Carole. Le géant de l'automobile français a décidé de transférer ses actifs, en clair une usine, à l'État russe. Hein.
Trois usines même. Oui, Renault assure que c'est un accord qui a été passé en Russie. Le groupe avait déjà annoncé qu'il partait, mais il continue à payer ses 45 000 salariés sur place. En Russie, abandonner son usine et ses salariés, eh bien, c'est passible d'une peine de prison. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le groupe français a donc cédé pour une somme symbolique, a priori, ses actifs à la mairie de Moscou pour sa plus grosse usine située dans la banlieue moscovite et à une filiale du ministère de l'Industrie pour le reste. L'accord prévoit que Renault puisse reprendre la main sur ses actifs dans les 6 ans qui viennent si les sanctions sont levées, si Vladimir Poutine quitte le pouvoir, bref, si la situation évolue, ce qui semble une échéance de plus en plus lointaine. Alors l'État actionnaire à 15% de Renault a-t-il joué un rôle dans cet accord? Absolument pas, affirme à la fois le groupe aux losanges et le ministère de l'économie qui ne souhaite faire aucun commentaire.
Carole Ferry, merci Carole. Cette information Europe 1 qu'on vous donnait dès ce matin, quelques 118 scooters et motos ont été saisis ce week-end au cours de 950 opérations de police et de gendarmerie contre ceux qui pratiquent les rodéos aux urbains, chiffre fourni par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui avait demandé d'intensifier les contrôles ce week-end. Il va faire chaud, il fait déjà chaud en France en ce début de semaine. On va en reparler dans un instant avec Anissa Haddadi, juste après le sport. Mais je voulais qu'on parle de cette information. C'est anormal, cette chaleur pour un mois de mai. Selon le météorologue Nicolas Lefriant, ce n'est ni un dôme de chaleur, ni une canicule comme vécu en 2003, par exemple.
En 2003, nous étions donc dans un système de dôme de chaleur puisqu'on n'était ni dans des conditions anticycloniques ni dans des conditions dépressionnaires générant des précipitations, ce qui fait que l'air chaud en provenance du Maghreb a stationné pendant plus de 15 jours sur l'Europe de l'Ouest et évidemment sur la France. Cette semaine, on est dans une situation où la dépression qui est sur l'Atlantique génère un flux de sud, donc évidemment très chaud, puisqu'on surveillera d'ailleurs des records de chaleur mensuels pour la journée de mercredi, notamment dans le sud-ouest. Mais cette situation va durer que 2 jours et surtout, cette chaleur est interrompue par des situations orageuses, comme on l'a connu hier dimanche et comme on va le connaître à partir de mercredi. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout en situation de canicule parce que les nuits sont entre guillemets trop fraîches puisqu'on est heureusement au mois de mai.
Voilà ce à quoi il faut s'attendre et on ne peut pas parler de dôme de chaleur. C'est vrai qu'on l'a entendu ici ou là. Toujours est-il, il va faire chaud. Météo avec Anissa Haddadi dans un instant. Mais tout d'abord, il était au centre de toutes les conversations hier soir à la soirée UNFP. Les Césars du foot, j'ai nommé Kylian Mbappé. Où va-t-il jouer l'année prochaine? Au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, dans un autre club? Le mystère reste total pour le moment. Cyril de la Morinerie, vous étiez hier soir à la soirée UNFP. Cyril, pour les supporters parisiens, ce mystère sur l'avenir Mbappé est d'autant plus difficile à supporter que leur champion sort d'une saison stratosphérique.
Ah, une saison de rêve. Hein. Meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. Il a explosé tous les compteurs et sans lui, le Paris Saint-Germain sans doute n'aurait pas été champion. Et c'est pourquoi tous les regards hier soir étaient tournés vers la méga star de la Ligue 1, notamment en raison de son avenir qui est encore incertain. Dès son arrivée sur le tapis rouge, eh bien, c'était de la folie. Voilà, les fans de Kylian Mbappé sont hystériques, mais l'attaquant parisien est déjà rentré à l'intérieur du pavillon Gabriel. 22h48, Thierry Henry met fin au faux suspense.
Le meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats, Kylian Mbappé, par exemple.
Le champion du monde de 23 ans reçoit le prix de meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois, et peut-être donc pour la dernière fois, car Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le PSG, et de nouveau, tel un scénariste hollywoodien, eh bien, il a prolongé le suspense sur son avenir.
J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire.
Mais Kylian Mbappé ajoute que sa décision est quasiment prise avant de quitter la scène et de retrouver une forêt de journalistes encore plus curieux. Cette grande annonce, c'est pour quand ? Lui demande un confrère.
Ça va plus tarder.
Ça va plus tarder ?
Non. L'équipe de France ?
Non, avant, bien avant.
Voilà, Kylian Mbappé devrait donc se prononcer, Romain, avant le 28 mai prochain et le début du rassemblement de l'équipe de France, soit encore 12 jours d'attente maximum. On rappelle que le dernier match de Kylian Mbappé pour la saison, ce sera le PSG Metz de samedi prochain. Évidemment, tous les acteurs de la Ligue 1 espèrent qu'il va rester, mais en Espagne, on est certain que l'attaquant du PSG va rejoindre le Real Madrid. Le journal bien informé, Marca, a annoncé donc que Kylian Mbappé aurait déjà signé un accord avec le club madrilène la semaine dernière.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Bon, au ton de Mbappé, on a l'impression que c'est vrai, l'annonce est vraiment imminente. Hein, on va suivre ça. Merci beaucoup Cyril. La météo pour ces prochaines heures. Anissa Dadi avec un temps lourd et changeant. Hein.
Oui, c'est vrai que depuis ce matin, c'est assez instable. On a un temps qui varie beaucoup et ça continue cet après-midi avec des averses entre l'Auvergne et le Nord-Est. Des orages aussi hein, qui se dirigent cet après-midi sur l'Alsace. Cette instabilité touche également la Bretagne où nous aurons de plus en plus d'averses sur la pointe bretonne. C'est le long de la façade atlantique et au bord de la Méditerranée finalement que la journée sera la plus belle. Ailleurs, on hésite entre passages nuageux et rayons de soleil. Et même dans cette ambiance, les températures sont en hausse, il va faire chaud et ce n'est que le début. 20 degrés à Lorient, 22 au Havre, 25 à Nantes, 26 pour Paris, 28 à Bordeaux et jusqu'à 31 degrés à Cahors.
Merci Anissa, il est midi 18, restez bien avec nous dans Europe Midi. On va parler dans un instant du port du masque. Fini le port du masque obligatoire dans les transports en commun, on va parler du burkini. On va parler également de l'avenir de Jean Castex et surtout de qui pour le remplacer à Matignon. On en parle avec vous au 39-21 et avec Prisca Thévenot, qui est porte-parole de La République En Marche, et avec Benjamin Cauchy, qui est porte-parole du parti Reconquête. A tout de suite.
Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39-21. 50 centimes la minute.